Bastien Bouillon est à l'affiche de À pied d'œuvre, un film de Valérie Donzelli, adapté du roman de Franck Courtès, et son personnage se présente comme suit.
Homme à tout faire, polyvalent, ponctuel, soigneux, efficace, se déplace à Paris et proche couronne. Bricolage, montage de meubles, installation de télévision murale, fixation d'étagères, pose de tringles à rideaux, évacuation de gravats, livraison tout domaine, serveur, commis de cuisine, manutentionnaire, écrivain.
Il dit « En ce moment, je suis dans une spirale. » Parce qu'il se démultiplie et ne cesse de se transformer entre le rôle d'un flic des années 50 dans l'affaire Bojarski ou celui d'un jeune homme d'aujourd'hui dans la comédie musicale Partir un jour, pour laquelle il est nommé au César dans la catégorie meilleur acteur. Il y a 3 ans, Bastien Bouillon remportait un autre César, celui du meilleur espoir, et c'était pour La nuit du 12. Il avait alors 37 ans, et quand il a reçu son prix, il a déclaré « un César pour avoir gardé espoir ». Aujourd'hui, Bastien Bouillon incarne un écrivain dans le nouveau film de Valérie Donzelli. Il s'intitule « À pied d'œuvre » et il est adapté du roman de Franck Courtès. Il y a 3 ans, j'avais rencontré Franck Courtès pour la sortie de son roman. L'histoire d'un homme qui décide d'écrire et quitte à tout perdre, quitte à devenir pauvre et gagner sa vie en vendant ses bras et en faisant plein de petits boulots. Totébic aujourd'hui, ce sera donc un double portrait. Le premier se déroule dans la cuisine de Franck Courtès, écrivain, et le second se déroule en partie dans la cuisine de Bastien Bouillon, comédien. Totémic, scène 1, intérieur jour, chez Franck Courtès.
Totémic, Rebecca Manzoni, sur France Inter.
Je vous la vends pas la maison, rassurez. Je ne sais pas pourquoi je fais. Alors voici la cuisine. Je passe devant ?
Ouais.
Là, c'est la chambre des enfants, mais bon, j'y vais plus, comme vous pouvez le voir. C'est quand même un gros bazar. J'ai jamais eu le cœur d'enlever l'arc.
L'arc jouet ?
Ouais, de mon fils. Ouais. Là, c'est mon bureau. Mais là, je suis bien. Pour travailler, c'est formidable, quoi.
Pourquoi il y a des bouchons d'oreilles à côté de l'ordinateur ?
Ici, enfin, le bruit de la campagne, c'est pas que le coq, c'est aussi beaucoup de motoculteurs, de trucs qui... des moteurs, quoi. Et donc, voilà, je mets les bouchons d'oreilles. Comme ça, je m'isole totalement face au mur.
Mais en fait, vous me faites visiter, et vous, dans À pied d'œuvre, vous rentrez aussi en effectuant des travaux de bricolage, pour débarrasser des trucs. Vous entrez dans la plus grande intimité, en fait, des gens.
Oui.
Et en plus, comme vous venez faire des travaux, ils font pas d'efforts.
Oui, ça m'avait beaucoup marqué, l'effet, parce qu'on fait beaucoup de travaux chez les femmes. C'est quand même essentiellement un monde féminin, les clients. De tous les âges, en fait. Comme si les maris, les frères, les cousins, les papas avaient disparu complètement du monde, quoi. Donc j'arrive et je découvre l'intimité de femmes avec quelque chose d'extrêmement touchant, parfois érotique, parfois presque un mépris pour ma personne aussi. Quand on me demande de nettoyer ou d'installer une étagère dans une salle de bain et que... il y a les rognures d'ongles qui n'ont pas été enlevées. Je pense que ça n'arriverait pas avec un amant, avec un date, quoi.
Et encore moins avec un photographe.
Et encore moins avec un photographe, puisque moi, j'avais toujours cette impression un peu désagréable quand j'allais chez les gens. Je faisais quasiment le même métier que vous. Hein. J'allais à la campagne, parfois, voir des maisons d'écrivains et faire des univers. Et je découvrais que tout avait été rangé. Donc là, je me suis efforcé de ne rien ranger.
Pourtant, c'est rangé. Hein.
Oui, c'est parce que j'ai une manie, c'est pour travailler, il faut que ça soit propre. Je ne peux pas travailler si le ménage n'est pas fait. Quoi.
Nettoyer l'établi avant de se mettre au boulot.
Ouais.
Que le chantier soit nickel.
Exactement. Et comme je suis devenu un homme de ménage, j'assure, je le fais bien.
On a vu la chambre de vos enfants. Il est question de vos enfants dans le livre aussi, dans À pied d'œuvre. Et vous avez déjà parlé de la paternité. Dans votre premier roman, oui. Qui s'intitulait « Toute ressemblance avec le père ».
Bravo.
Ce que raconte À pied d'œuvre aussi, c'est que cette nécessité d'écrire, qui est incontournable, elle rompt les liens avec les plus proches, en fait.
Elle les transforme, oui. Alors, les plus proches, qui sont les plus éloignés aussi, puisque mes enfants sont partis au Canada. Et ce que je n'avais pas vu venir, c'est que eux au Canada et moi en France, j'aurais absolument plus les moyens de venir les voir. Et ça, ça a été une découverte terrible, quoi. Et ça l'est toujours, d'ailleurs. J'attends qu'ils viennent me voir. Mais bon, ça fait... Ils sont partis il y a 12 ans. Je les ai vus peut-être deux ou trois fois, quoi. C'est terrible, terrible. Alors, heureusement, on se parle au téléphone, mais avec des vies qui sont totalement différentes maintenant. Mon fils travaille dans l'entreprise et dans le business, quoi. Ce qui est drôle, c'est qu'il a... Je crois que c'est le seul, pour le moment, qui me lit, alors que c'est pas un lecteur.
Alors, vous vous voyez peu, mais comme vous le disiez, vous vous parlez. Mmh. Et vous écrivez sur ce moment, sur sa voix qui change parce qu'il vous a lu.
En fait, à un moment, il est au courant. Il sait que je fais des petits boulots et il comprend. Il comprend enfin que c'est une recherche de liberté, mais il voit que c'est une galère, quoi. Et les premières payes qu'il reçoit, qui sont un peu conséquentes, quoi, le premier réflexe qu'il a, c'est de me dire « Mais tu sais que je peux t'envoyer de l'argent, je peux t'aider. » Alors qu'il a 20 ans, hein. Et là, ça m'a fait un choc. J'ai pas aimé du tout ce moment. Alors, j'ai aimé qu'il ait ce réflexe. Je trouve que c'est un homme extraordinaire. Mais moi, ça a été une grosse douleur, quoi.
Vous racontez, vous, que finalement, ce déclassement que vous avez vécu, vous n'y étiez absolument pas préparé. Vous avez cette phrase où vous dites « Vous avez été élevé dans la défiance de ce déclassement. »
Presque tous les enfants des classes moyennes, on les menace de, s'ils ne réussissent pas à l'école, on les menace d'une forme de déclassement, en réalité. Je ne m'en étais pas rendu compte, mais quand je me suis retrouvé moi-même déclassé, oui, je me suis rappelé quand même qu'on nous disait « Mais si tu ne travailles pas à l'école, tu vas te retrouver comme caissière au Monoprix. » Alors qu'aujourd'hui, caissière au Monoprix, même si c'est très dur, c'est un métier, je me dis, au moins, ils gagnent beaucoup plus que les gens que j'ai vus travailler pour... Très peu. Oui, moi, dans mon milieu social, les smicards, c'était des pauvres. Aujourd'hui, ce que je vois avec les nouveaux précaires, les nouveaux pauvres, c'est que les smicards sont des gens qui ont au moins ça, quoi. Là, j'ai vu des gens qui n'avaient vraiment plus rien, quoi. C'est terrible. En fait, la prochaine étape, c'est la rue.
Mais ce que vous dites, vous aussi, c'est que vous ressemblez presque trop aux gens que vous servez.
Oui. Oui, je me suis rendu compte, parce que j'avais eu une idée un peu fumeuse pendant les fêtes de Noël, de faire le porteur. Parce que je voyais les gens sortir des grands magasins au centre de Paris avec des tas de colis, des écrans plats, des machins comme ça. Et je me dis, tiens, si je proposais mon service pour les aider à porter leur bagage jusqu'à la voiture ou jusqu'au métro ou je ne sais où. Et en fait, comme c'était l'hiver, j'étais habillé et ça, on ne voyait pas que j'avais l'air chic. J'avais un manteau, parce que j'ai gardé tous mes vêtements. Enfin, j'ai gardé le maximum de vêtements de marque. J'ai vendu beaucoup d'autres choses, mais ça, donc je peux encore refaire illusion. Et donc, je m'étais pointé, j'avais la chemise blanche, le petit manteau comme il faut, à chevrons gris. Et donc, j'ai commencé à vouloir prendre les bagages d'une dame qui était ultra chargée. Donc, au moment où j'ai voulu lui proposer de l'aider pour 5 euros, en fait, parce que moi, j'étais persuadé que j'allais en faire 15 dans la journée, quoi. Et là, elle me dit, oh, mais c'est vraiment très, très gentil, les gentlemen, on n'en voit plus beaucoup. Et là, j'ai pas pu lui dire que non, en fait, j'étais pas du tout un gentleman. Je faisais ça pour l'argent. Oui, je ressemblais beaucoup aux gens. Il y avait des gens qui comprenaient pas aussi quand j'arrivais chez eux. Ils me regardaient et ils avaient un petit temps d'arrêt en se disant, c'est pas l'ouvrier. Je correspondais pas. Et je pense que c'est pour ça que tous ces nouveaux pauvres, personne ne les voit. Parce qu'en fait, ils ne correspondent pas à l'idée qu'on se fait des pauvres. Quoi.
C'est quoi l'idée qu'on se fait des pauvres ?
C'est des gens dans la rue, sales, c'est des gens avec un mauvais goût. Or, moi, ce que j'ai vu, c'est beaucoup de cadres qui ont fait des burn-out et qui sont obligés de faire des petits boulots. J'ai vu des jeunes Africains qu'on n'imagine plus sur des podiums de mode, plutôt que sur des estrades à se vendre aux enchères pour faire des petits travaux, des mecs très beaux, avec du style. Oui, on est invisible, quoi.
Dans À pied d'œuvre, Franck Courtès fait le récit de plusieurs rencontres entre le personnage principal et ceux qui l'emploient pour des petits boulots chez eux. Extrait d'À pied d'œuvre, lu par Bastien Bouillon.
Il m'interroge et s'étonne quand je lui dis que je suis écrivain. Mon métier, c'est écrire. L'outil est puissant. La langue française. Les instruments raffinés. Les mots. L'expression de son visage change. Son ton aussi. Il aime ça, la littérature. Pour un peu, il me sortirait l'apéritif et les olives. Il veut me la prouver, là, tout de suite, sa culture. Avec une chouette liste de lectures. Céline, Proust, Balzac, qu'il faut absolument relire. Et Houellebecq, à la fin. Comme s'il annonçait les stations de métro d'une ligne. Oui, Houellebecq, répète-t-il dans un demi-sourire. C'est son terminus.
Suite de la rencontre avec Franck Courtès dans Totemic.
La façon dont vous racontez, jamais on est dans le misérabilisme. À la fois, c'est pas du tout un livre clinique, et en même temps, vous avez trouvé une distance. Comment vous l'avez trouvé, ça ?
La photo m'a appris aussi à trouver la bonne distance. Les portraits, 90% du travail, c'est une distance avec la personne, quoi. Et avant d'être un manœuvre, je suis un écrivain, tout simplement. Alors, c'est-à-dire, par exemple, il n'était pas question d'employer des mots comme le mot esclavage. Je trouve que c'est trop fort. Ça oblige le lecteur à accepter que, voilà, c'est un esclavage. Non, je veux décrire, mais je ne veux pas le dire moi-même. Je suggère, quoi. C'est tout un travail d'amener les gens à ressentir et à se faire une conclusion par eux-mêmes, y compris une conclusion politique, une opinion politique sur le sujet. Jamais je pars d'un point de vue, je ne parle pas d'un point de vue politique.
Mais c'est ça qui est fort, c'est que du coup, vous êtes audible. C'est-à-dire que comme vous ne parlez pas point levé en étant une sorte de militant, ce n'est pas du tout un livre tract, alors vous ne prêchez pas que les convaincus.
Ben alors, formidable, c'est que ça fonctionne. Mais bon, c'est un écueil que j'ai pas eu à aucun moment, en fait, depuis le début. Mais parce que je pense que c'est parce que j'ai plein d'amis, aussi bien à gauche, à droite, au centre, des gens. Et quand j'écris, je m'adresse à tout le monde. Je veux pouvoir être capable de tenir le même discours devant chacun d'entre eux, quoi. Alors, je travaille ça. C'est-à-dire que moi, dans la vraie vie, je m'emporte. Je suis beaucoup plus politique que dans mes livres. Je m'emporte. Quand je regarde la télé, je m'énerve pour un rien. Et en fait, quand j'écris, ben, je me relis, tout simplement. Et ça calme.
À vous écouter et à vous lire, en fait, je trouve que ça raconte une intégrité. Ce mot-là non plus n'est pas dans le livre.
Ben non, je ne veux pas parler de... Enfin,
non, évidemment, mais, voilà, mais c'est une idée aussi qui dépasse le livre.
Ouais.
Cette idée de comment on se tient dans la vie, quoi.
Ben, encore une fois, pour éviter le mot intégrité, dignité, qui sont des mots... que je veux bien, j'ai plaisir à voir que ça provoque ce sentiment-là. Mais moi, en tant qu'auteur, je vais choisir un mot beaucoup plus modeste, plus simple, qui est se tenir droit dans un monde qui ne me plaît pas énormément, en tout cas un monde économique qui ne me plaît pas, et que je ne pourrais pas changer, que j'aurais pas le temps, que j'aurais pas l'énergie, et que j'aurais pas les moyens de changer. L'essentiel, c'est de trouver un moyen de s'y tenir à peu près droit. Voilà. Et donc, dans ce monde du travail-là, j'aurais pas pu être plus riche, j'aurais pas pu être plus heureux, et j'aurais pas pu être plus libre. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de plainte, c'est pour ça que je ne me plains pas, c'est qu'au fond, malgré les privations, et... bon, il y a des moments de désespoir, évidemment, quand j'ai eu faim, c'était dur, mais je n'ai jamais été vraiment malheureux, quoi.
Ça me fait penser... Deux fois, on m'a dit que je ne devais pas faire ce que j'avais l'intention de faire, de la photo. On m'a dit, pour qui tu te prends ? Qu'est-ce que tu crois que c'est pour imiter un autre photographe ? Tu ne seras probablement jamais photographe, etc. Et pareil, quand j'ai commencé à écrire, on essayait de me décourager, quoi. Alors, je ne parle pas des gens qui me lisaient, qui me disaient non, au contraire, vas-y, mais plutôt la famille, les plus proches, qui me disaient non, mais tu ne vas pas faire ça. Je crois que je vais le faire. Voilà, il y a un côté... allez-y, ouais, c'est pas grave. Il y a un truc, de toute façon, beaucoup trop fort en moi. Je suis obligé de le faire. Voilà. Donc, vous avez raison. Je suis un trou du cul. Mais je le fais. c'est important de garder ce goût du risque. Il faut qu'on encourage, en fait, la prise de risque le plus possible. Je ne sais plus dans quel livre je le disais, je disais de mon fils qu'il fallait que je le laissais monter aux arbres tout petit. Sur 9 enfants qui vont se casser la figure, il y en a un qui verra l'horizon. C'est ça. Il faut laisser sa chance aux gens qui ont une envie.
C'est quoi pour vous un vrai pauvre ?
Les mendiants en Inde. Les miséreux de Madagascar. Ceux de Mexico aussi. Pardon, mais j'ai voyagé, je les ai vus.
Extrait du film de Valérie Donzelli, adapté du roman de Franck Courtès. C'est une scène de repas entre Paul, photographe qui choisit l'écriture et devient pauvre, sa sœur et son père. André Marcon, Marion l'écrivain et Bastien Bouillon.
Il y a 11 millions de pauvres en France. Et toi, tu prétends que ceux d'ici ne sont pas vraiment pauvres parce que tu as vu les vrais là où tu pars en vacances ?
Mais arrête ! Elle te parle de toi.
Oui, je dis juste que toi, t'as le choix.
Non, mais je vois bien que ça te perturbe, que je fasse pas ce qui te paraît normal. Mais je fais ce que je peux. J'essaie de trouver du sens à ce que je fais, c'est tout. Et toi, tu me condamnes.
Mais non.
Mais si. Elle dit que je suis faux, que j'ai le choix, simplement pour signifier que je fais les mauvais choix. Alors tant mieux pour toi, Marion, si tu fais les bons. Moi, je te condamne pas.
Arrête, Paul, ça va. Renverse pas la situation.
Non, mais je rêve. C'est toi qui as choisi un boulot mal payé comme un esclave.
C'est peut-être le prix de ma liberté. Puis tu sais, à notre époque, il y a des esclaves très bien payés. Make it all about me. I
make it all about you. Après ce morceau de l'américain Jalen Ngonda, la suite de Totemic, c'est une rencontre avec Bastien Bouillon.
Rebecca.
Bonjour Rebecca.
Je me mets sur avion, pardon, je ne sais pas du tout utiliser les téléphones comme ça, c'est tout neuf pour moi. Voilà. Avion.
Il enchaîne. Interview, préparation d'un nouveau rôle, écriture d'un long métrage dont il assurera la réalisation. En s'asseyant, Bastien Bouillon me dit qu'en ce moment, il est le cliché du père absent qui achète des cadeaux à ses fils pour compenser maladroitement d'être suroccupé. Depuis la nuit du 12, polar de Dominique Moll, où son rôle de flic lui a valu le César du meilleur espoir, il fut Fernand de Morcef, celui qui trahit Edmond Dantès dans le Comte de Monte Cristo. Cette année, il est nommé dans la catégorie meilleur acteur pour la comédie musicale « Partir un jour » d'Amélie Bonin. Et cette semaine, il est Paul Marquet dans le film de Valérie Donzelli, adapté du roman d'inspiration autobiographique de Franck Courtès.
Aujourd'hui, c'est la plus grande partition de ma carrière. Parce que c'est un film qui est extrêmement centré sur le personnage principal. Il est quasiment de tous les plans. On est à la fois avec lui, on est à la fois dans sa tête, on est à la fois avec son écriture, à la fois avec sa voix, puisque Valérie Donzelli utilise
la voix off
tirée directement du roman de Franck Courtès, que j'ai enregistré d'ailleurs après le film pour Gallimard en livre audio.
Comment vous l'avez travaillé, cette voix ?
La voix off ?
Oui.
J'ai essayé d'être le plus droit possible et le plus fidèle à ce que, au corps et à l'attitude de Paul Marquet dans ce qu'on voyait à l'image. Voilà, qu'on croit vraiment que ce soit lui qui parle, et je pense que ça marche. J'ai pas essayé d'être quelqu'un d'autre ou quoi, j'ai juste essayé d'être droit et de faire entendre les mots de Franck Courtès. Il faut savoir parfois se mettre sous les mots, nous comédiens, et pas
ça veut dire quoi, se mettre sous les mots?
Mais c'est-à-dire les faire entendre et pas être dans quelque chose de démonstratif où on veut montrer notre capacité à les interpréter et à leur donner du sens. Des fois, il faut leur faire confiance, le sens est là et il faut juste les donner.
Photographe, je gagnais environ 3000 euros par mois, certaines années 8000.
La voix off d'À pied d'œuvre par Bastien Bouillon dans le film de Valérie Donzelli.
Depuis que j'ai arrêté la photographie, je ne touche que 250 euros par mois de droits d'auteur. 200 ou 300 euros par mois, ce n'est pas la misère, mais on commence à en avoir une vue bien dégagée. C'est au moment où j'ai épuisé mes économies, sans espoir immédiat de les renouveler, que j'ai pris conscience que je devenais pauvre.
Le film de Valérie me fait énormément penser à ma mère. Je ne sais pas si le film lui parlera, mais voilà. Parce que ma mère, qui est toujours comédienne, elle donne des ateliers, elle écrit parfois, elle monte des pièces, voilà. Mais c'est quelqu'un qui, à un moment, travaillait avec Romer, a fait deux films avec Romer, qui travaillait avec Peter Brook, qui était en haut de l'affiche, quoi, qui faisait des couvertures, voilà, et qui a décidé, du jour au lendemain, d'arrêter. Parce que elle trouvait pas sa nourriture viscérale, sa nourriture essentielle pour continuer à avancer dans ce qu'elle faisait, et elle s'est écoutée. Et je l'ai pas dit tout à l'heure, mais je peux le dire là, pourquoi ça me fait penser aussi au film, c'est parce que ma mère est pauvre et elle veut pas que je lui prête de l'argent, et il n'y a pas de souci, ou que je lui donne même, pardon, mais voilà, c'est son choix. Et voilà pourquoi ça me fait penser à ma mère, parce que Franck Courtès, au risque, entre guillemets, de perdre énormément, ce qui est un peu montré dans le film, ce qui est décrit dans le livre, a décidé de rester droit au plus proche de sa vérité à lui. Et c'est certainement ça, voilà, quand je dis au plus proche de sa vérité à lui, que le film me fait penser à ma mère.
Cet homme-là, qui vit dans la précarité,
oui.
Parce qu'il a choisi d'écrire, il n'élève jamais la voix. Il n'est jamais ni dans la colère, ni dans la révolte.
Ouais.
Ce qui pourrait être vachement spectaculaire. Comment vous avez fait avec ça ?
En fait, avec Valérie, je pense qu'on s'est tout de suite dit qu'il devait être à sa place, sans chercher à convaincre, c'est pas quelqu'un qui essaye de convaincre qu'il faut vivre comme il vit, c'est pas quelqu'un qui essaye de persuader les autres, c'est quelqu'un qui essaye de suivre son chemin comme il y arrive d'une certaine manière, au prix du labeur, ça l'apaise en fait. Et en fait, il devient comme un miroir vis-à-vis de ses interlocuteurs qui le renvoie à ce que eux sont, et un miroir. Regarde mais ne parle pas.
C'est vous qui avez choisi de vous raser la tête pour le rôle ?
Pas du tout, c'est Valérie. Ouais, ouais. Après, moi, j'ai grandi avec, je sais pas, entre 12 et 18 ans au moins, avec le crâne rasé par mes soins, tous les mois, donc c'est quelque chose auquel j'ai même été rasé à blanc, au rasoir, enfin, donc c'est quelque chose que j'étais content de retrouver presque, ça, moi ça m'a fait plaisir.
Ah et oui, puis, pourquoi être content?
Bah parce que c'est une sensation, je sais pas si vous êtes déjà rasé la tête, mais c'est une sacrée sensation de plus avoir à penser à se coiffer, il y a un truc de l'ordre de l'image qui est beaucoup plus figé que quand on peut s'amuser à se mettre les cheveux en arrière, sur le côté, sur le machin, qu'on a un épi, qu'on est réveillé, qu'on truc. Donc il y a aussi tout ce que ça représente dans la tête des gens, autant pour un passant que pour un policier. Voilà, ça...
Ce qu'on projette, quoi.
Voilà, ce qu'on projette. Non, j'étais content. Pour le coup, là, c'est pas du tout un effet de style dans le film. C'est, je pense, effectivement, que c'est beaucoup plus simple de se raser la tête pour lui quand il n'a pas d'argent pour aller chez le coiffeur. Voilà, on est plus dans un truc de simplicité, voilà. En tout cas, on n'a pas toute cette romantisation du geste, quoi.
La Valérie Donzelli, elle a réalisé à pied d'œuvre pour son grand-père. Le film est inspiré d'un roman de Franck Courtès, qui lui dit avoir écrit le roman pour ses enfants. Est-ce que vous avez pu choisir des rôles pour vous adresser à quelqu'un en particulier?
Non.
C'est toujours pour vous, perso?
Peut-être, je peux dire c'est toujours pour moi, mais dans le sens où c'est toujours pour disparaître, pour ne plus exister. Donc, oui, finalement, ça revient à ça.
Ce qui peut sembler contradictoire, parce que, justement, quand on fait du cinéma, a fortiori, on existe encore plus aux yeux du public. Ouais. Vous voulez disparaître jusqu'où et pour quelle raison?
Je parle de m'oublier parce que, en fait, c'est le seul moment où je peux, moi, Bastien Bouillon, ne plus exister. Et certainement, je dois être, comme beaucoup de comédiens, égocentrés, et puis... Comme ma compagne aime me dire, je suis un blanc de 40 ans, complaisant et torturé. Il y a un endroit où, quand je joue, je ne suis plus là. Mais ça n'arrive pas tout le temps. Je fais souvent la comparaison avec quand on fait l'amour. Bah, parfois, quand on fait l'amour, on s'oublie, on n'existe plus, il n'y a plus rien. De la même manière que certains comédiens ont des tics, des tocs, bégayent et ne l'ont plus à l'image. Parce qu'il n'existe plus.
Pourquoi vous recherchez ça?
Parce que ça me fait du bien. Parce que c'est l'endroit où je trouve la paix. Et moi, je cherche la paix. Voilà. C'est pas facile à trouver.
Il y a 3 ans pile, Bastien Bouillon recevait le César du meilleur espoir masculin pour La nuit du 12 de Dominique Moll. Il y joue un policier de la PJ de Grenoble, obsédé par un féminicide. Extrait de La nuit du 12 avec Bully Lanners et Bastien Bouillon.
Il m'est arrivé un drôle de truc tout à l'heure. J'ai annoncé le décès à sa mère. J'ai aperçu une photo de la gamine au mur, elle petite avec un chat. Et j'ai pas pu. Il n'y avait plus rien qui sortait.
C'est normal, tu venais de voir le corps. C'est toujours plus dur quand on a le corps.
Ouais, peut-être. Je sais pas comment dire, c'est comme si j'étais au bord d'un grand trou. Je voyais sa mère devant moi, mais j'étais dans le noir.
T'as bugué. Ça arrive.
Un drôle de bug. J'ai cru que j'étais mort.
T'exagères pas un peu là, quand même, non?
Ouais, t'as raison.
On a une vision... je pense dû au cinéma américain, mais pas que, des policiers comme un peu comme des cow-boys. Mais là, en l'occurrence, ces enquêteurs, je pense à La nuit du 12, il nous fait arriver avec une mallette, un espèce d'attaché case et notre ordi portable et tout ça dans des bagnoles familiales. Il n'y a pas de gros claquements de porte et des rafales de tirs et tout ça, alors que c'est des policiers haut gradés et tout ça. Donc ça déconstruit. Si vous voulez, c'était pas le meilleur film pour jouer du pistolet, quoi. Ce fantasme que je peux avoir dans d'autres films, que j'ai un peu touché dans l'affaire Bojarski, voilà.
Nous étions en 1990 et Depeche Mode jouait Enjoy the Silence. Bastien Bouillon a 40 ans et il a traîné dans les théâtres tout petit. Un enfant de la balle, comme on dit. Son grand-père paternel fut chef d'orchestre, sa mère est comédienne et son père metteur en scène.
Bah, c'est avec lui que j'ai le plus joué.
Qu'est-ce que ça crée comme lien d'être... C'est particulier quand même d'être mis en scène par son propre père.
Il y a eu beaucoup de moments où je me suis permis de lui parler de manière pas agréable ou de manière plutôt sèche, comme je ne me suis jamais permis de lui parler dans la vie.
Donc, la scène ou des rôles ont été l'occasion de s'adresser directement à lui, de lui dire des trucs, en gros.
Ouais, bah, en fait, parce que je lui en voulais. C'est quelqu'un qui n'est jamais venu m'amener à l'école et quelqu'un qui n'est jamais venu me chercher à l'école. Contrairement à moi, qui l'ai fait avec tous mes enfants. Évidemment, j'avais la chance d'aller voir toutes ces pièces. C'est une chance de traîner dans les coulisses, de monter sur scène parfois pendant les applaudissements quand on est tout petit et tout ça. Mais c'est quelqu'un, oui, que je voyais deux fois dans l'année quand il faisait ses pièces, à Noël et puis pendant l'été. Donc voilà. Et, mais c'est, ça a été un bon père. Juste, il avait quelque chose de plus grand à s'occuper. Mais c'est quelqu'un qui a donné sa vie entièrement au théâtre. Voilà. Et je dis ça, et en même temps, je suis dans une sorte de spirale, puisque j'ai un film qui est sorti il y a 15 jours. Là, j'ai le film de Valérie qui sort, et que je sais que je vois pas mes enfants, donc c'est quelque chose avec en grandissant moi et que j'ai compris aussi de chez lui, et donc j'ai aucune rancune envers lui. Et mon père, c'est quelqu'un que j'ai énormément admiré dans son travail, énormément, qui m'a fait découvrir des textes, qui m'a fait découvrir des exercices du corps. Il y a des spectacles à lui que je suis allé voir 8 fois, tellement je les aimais et tout ça.
Est-ce qu'il vous admire, lui, aujourd'hui ?
Écoutez, oui. Je ne vais pas dire oui, je pense, ou oui, je crois, oui.
Votre mère était comédienne,
oui.
Votre père metteur en scène.
Mm-hmm.
Ça fait un peu chemin tout tracé, de fait, que vous le deveniez à votre tour.
Oui, 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 tout à fait. Carrément. Je ne voulais pas m'avouer que j'avais été pris par cette envie. Puis après, j'ai voyagé et travaillé pendant 2 ans. Quand je suis rentré de voyage la deuxième fois, c'était pour passer le conservatoire, pour vraiment tenter ma chance. Mais je pense que je suis même parti en voyage parce que je me suis dit, le jour où tu vas essayer de devenir comédien, il ne faudra pas lâcher. J'avais compris que c'était dur. Ou que, en tout cas, pour moi, ce serait dur.
D'ailleurs, quand vous avez reçu votre César de oui. meilleur espoir masculin pour la nuit du 12,
oui.
vous avez dit un César pour garder espoir.
Un César pour avoir gardé espoir.
Parce que vous l'avez perdu à certains moments, l'espoir, ou vous vous êtes découragé?
Ah bah, ce que j'ai pas perdu, c'est l'amour du jeu. Mais si vous voulez, quand j'ai commencé à 21, 22 ans, on commence par une phrase ou deux dans un film, on a l'impression qu'on joue notre vie. On en fait des caisses, on en fait trop et on est mauvais. Et je voyais déjà des gens qui arrêtaient. Voilà, non, j'arrête parce que c'est trop dur. Et certainement que c'est parce que quand on vient, moi, je suis un privilégié parce que on ne m'a pas poussé à faire du théâtre ou à être comédien, mais on ne m'a pas dégoûté de ça. On ne m'a jamais dissuadé, on ne m'a jamais dit c'est pas un vrai métier, tu vas finir clochard, ou il faut assurer ses arrières, il faut être stable. On ne m'a jamais dit ça, moi. Donc c'est vrai que dans ma naïveté de jeune adulte, comme ça, quand je voyais des gens arrêter si tôt, et en plus je pense que c'était des gens, économiquement, qui avaient des familles qui allaient bien. Hein. C'est justement le pragmatisme des familles... qui se sont certainement un peu battus, qui ont eu de labeur, qui sont maintenant, qui ont un patrimoine et qui sont dans ce chemin-là, on va dire. Voilà, moi je me suis battu, comme je vous ai dit, l'expression est moche, comme un chien, mais pour avoir au plus tôt, le plus tôt dans ma vie, l'intermittence.
Pour vivre de votre métier autant que possible.
Mais quand je vous dis que je suis un petit bourgeois, j'avais aussi la chance que mon grand-père me prête son atelier à Pigalle et que je paye 400 euros de loyer au lieu de 850 ou 1002 en coloc, j'en sais rien. Enfin bon, je suis aussi une sorte de privilégié. Je ne veux pas occulter cette facette de moi.
Est-ce que le fait de pas, justement, d'avoir par moment juste quelques lignes à dire dans un rôle, etc., est-ce que ça a créé de la colère à certains moments ?
Colère, c'est plus... C'est jamais tourné vers les gens, mais c'est plus quand on se compare aux autres et on voit des parcours comme ça, fulgurants, de gens qui sont assis à côté de nous sur les mêmes bancs en classe. Sauf que tout d'un coup, c'est fulgurant, ça va très vite. Et donc là, on est en colère parce qu'en fait, on ne comprend pas, et ça, je pense, ça fait partie de ma naïveté, on ne comprend pas pourquoi. Il y a évidemment des choix stratégiques, le physique qui joue. En fait, tous les parcours sont différents.
Quand vous avez reçu le scénario de la nuit du 12, vous saviez tout de suite que ça allait être important ?
Il faut éclaircir quelque chose. Il y a 3 comédiens, je pense, qui l'ont lu, qui ont refusé. Il y a un quatrième qui a accepté et qui est parti, je ne sais plus, un mois et demi avant le début du tournage. Voilà, et c'est à ce moment-là que Dominique... Mais je ne passais pas le casting pour le premier rôle, mais ni pour les seconds rôles non plus. Donc oui, là, la frustration... Oui, là, si on peut parler de frustration ou de colère, oui, j'ai eu de la frustration et de la colère. Et puis Dominique rouvre le casting à 2 comédiens, dont moi. Voilà, et je passe les essais, et Dominique me dit qu'il est ravi de m'apprendre, qu'il a envie de travailler avec moi. Je me rappelle que j'utilise cette phrase un peu... Je dis que je suis ravi de lui apprendre que j'accepte de travailler avec lui, un truc comme ça. Je me rappelle que c'était un peu piquant de ma part, je pense. Voilà, et c'est pour ça, quand je parlais, évidemment, des choix stratégiques, de ce qu'on représente physiquement et socialement dans la société, il y a aussi une part de chance. C'est marrant, mais je sors Bojarski et je sors à pied d'œuvre. Sur les 2 rôles, je remplace le même comédien. Donc je crois en la vie des films.
Je reviens quelques minutes sur Bojarski.
Ouais.
Bojarski, vous interprétez l'inspecteur Mattei.
Ouais.
C'est un film qui se déroule dans les années 50.
Après-guerre. C'est marrant parce que j'ai tourné un autre film assez récemment qui était exactement dans les mêmes années.
Monsieur Aznavour. Vous étiez Pierre Roche,
voilà,
l'un des premiers collaborateurs artistiques, chanteurs lui aussi, de Charles Aznavour.
Et c'est exactement les mêmes années. Et ben, je n'ai pas du tout travaillé la voix et la diction de la même manière.
Expliquez-moi.
Ben, la voix, c'est très compliqué. Quand je dis la voix, c'est...
Si je joue un ours dans un livre pour enfants, peut-être...
Bon, au cinéma, on ne peut pas faire ça. L'écart entre sa voix naturelle et une voix qu'on monte un petit peu ou qu'on descend un petit peu, c'est minime, sinon on paraît faux. Donc, pour Pierre Roche, j'ai décidé de monter dans le nez un tout petit peu et d'avoir le phrasé, les expressions et tout ça que j'empruntais d'ailleurs parfois à mon grand-père, parce que je lui rends plusieurs fois hommage dans ce film, mais de manière intime. Hein.
Et toi alors, tu chantes et tu joues au théâtre?
Bon, je fais des petits numéros dans des cabarets, puis je vends des journaux à côté.
Vous êtes vraiment courageux, Aïda et toi?
Pas vraiment le choix.
Extrait de Monsieur Aznavour, de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, Tahar Rahim et Charles Aznavour, et Bastien Bouillon et donc Pierre Roche, pianiste, compositeur, chanteur, qui formera un duo sur disque et sur scène avec Aznavour.
Peut-être que tu pourrais m'aider à faire travailler les chanteurs qui viennent au club?
Avec plaisir, pour moi aussi, je pourrais travailler mon chant. Tout le monde dit que j'ai la voix voilée.
C'est intéressant aussi, une voix voilée. Il y a plein de chanteurs de jazz américains qui ont une voix un peu comme ça.
Moi, je chante du nez.
Ah, oui, ben, en même temps, avec ce nez, Charles.
Oh. Ah, d'accord. Alors, je me fais attaquer par un jeune homme de 20 ans qui a plus de calvitie que mon père.
Pas mal. Beaucoup d'humour à ce que je vois. Eh ben, ça tombe bien. Passons aux choses sérieuses.
Pour le commissaire Mattei, j'ai pas du tout choisi de travailler comme ça. J'ai choisi d'être beaucoup plus droit, avec une voix beaucoup plus posée. Alors que c'est deux personnages, pour le coup, qui ont aussi des valeurs communes, notamment la manière de s'habiller. C'est deux personnages très classe.
Pourquoi votre grand-père est important? Vous le citez plusieurs fois?
Bon, parce que, en fait, toute la place que n'a pas pris mon père, c'est mes grands-parents qui l'ont pris, en fait. Donc c'était avec eux que j'étais en vacances. C'était avec eux que j'étais tous les week-ends, puisque je vivais pas avec... Je faisais pas une semaine sur deux. Mon père habitait à Bourges, puis à Tours, alors que moi, j'habitais à Paris avec ma mère, puis en banlieue avec ma mère, après, parce que j'ai passé mon adolescence en banlieue. Ma référence, c'était mes grands-parents. Et c'est eux, pas qui m'ont éduqué, c'est eux qui m'ont accompagné, et c'est eux qui m'offraient un endroit d'amour et de sécurité ultime.
Il s'appelle Elliot Vandenstein et il avance sous le pseudo de Ness.
Si je viens, c'est que je me donne sur le track.
Le bruit et le silence.
Si je viens, c'est que je me donne sur le track. C'est pas pour rien si à mon place sur le tract. Regarde-moi bien, je n'ai jamais signé le pacte. Je n'ai fait que viser le top. Je n'ai fait qu'assumer mes failles. Regarde-nous bien, on n'a jamais signé le pacte. Faut mettre bien sa famille, ses amis, les amis de la famille, des amis et j'en passe. Les gens viennent, les gens partent, des boulevards, des impasses. Des civils, des gendarmes, des refrains, des gens lâches. Des refrains, des couplets, des tout larges, des tout maigres. Je voulais un crew, une équipe. Je voulais palper du liquide. J'étais frêle et intuitif. Quand je pense à la grandeur du risque, quand je pense à la pression du disque, plus que dans les veines, je n'ai pas de collal. Si tu n'es pas pour de vrai, je ne fais pas de collab. Et y'a 2-3 rappeurs qu'il faudrait call out. Je vous baise, big up, shout out. Je suis dans le métro, des flashs dans le rétro. Devant, j'ai le succès ou les ulcères. Soit je me bouge, soit je moisis. C'est moi qui choisis.
C'est moi.
Je confonds le mercredi et le dimanche, le bruit et le silence, le lit et le divan. Tu m'achèteras pas avec tes pièces, des billets. Ta morale s'étend à du vide, des miettes. C'est la mienne, douce comme le miel. J'ai rempli, fait grossir l'assiette. Un peu de fame, ils veulent draguer des fillettes. Ils sont sur une ficelle. Ils méritent la civière, la gilette. Normal, je la rafale comme Clint Eastwood. C'est pour ça qu'il y a la tête de Chick qui bouge. Nous, on t'aime pas trop comme un vil si louche. Nous, on fonce dans le tas comme un missile douce. Il a voulu tirer cet imbécile tous. Dommage, il a trahi, on l'appréciait tous. La guerre quête de loin quand la paix s'étouffe. Si tu kiffes pas, t'écoutes pas et puis c'est tout.
Les non-dits ont tué nos familles. Les hauts placés ont bafoué nos valeurs. Les frères ont boosté nos batteries. Nos mères ont étanché nos malheurs.
9-4 comme le 113.
9-4 comme le 113, 113 comme le BPM. Invisible sur la map, je suis une sorte de VPN. Je calcule pas trop les stats, rien à foutre du CTR. Ma voix sur la TR, donc remballe ta CTM.
Je mets de l'argent dans le physique, comme si je veux un BBM.
Si tu me croises dans la rue,
je suis toujours avec les mêmes.
Elle est poilue comme une beuge,
verte comme CTM.
Man, that shit smell good as hell.
Merci, la musique m'a donné un sens. Je rappe comme si je fredonnais un sample. J'ai toujours marché avec le même instinct. Je traîne avec des geeks ou avec des lascars. Je pose assis et icy comme l'Alaska. Souvent près de l'objectif comme un NASCAR. J'envoie de la rime de bâtard, c'est pas du bas de gamme, c'est un motif de bagarre.
France Inter. Rebecca Manzoni.
Pour ce totémique, Bastien Bouillon et moi, nous sommes rencontrés deux fois. La première, on a dû s'arrêter de parler parce qu'on avait déjà débordé sur d'autres interviews prévues avec des collègues qui attendaient. Et la seconde fois, ça s'est passé chez lui, dans sa cuisine. Je me suis rendue dans un quartier de Paris, pas loin de Barbès. Et en marchant, j'entends un gars derrière moi qui dit « Vous êtes un peu en avance, non ?» Il était à vélo, siège d'enfant fixé sur le porte-bagages, suite de la conversation avec Bastien Bouillon. On va écouter le tube que vous avez choisi. Enfin, c'est pas un tube.
C'est pas un tube. Oh là là, je vais pas faire de mauvais jeu de mots parce que moi j'écoute ma musique sur YouTube. Ça permet de découvrir des artistes qui sont pas forcément. Moi, de la même manière que j'ai pas les réseaux sociaux ou que j'ai pas, j'en sais rien, Netflix, les plateformes, les trucs, les machins, j'ai pas non plus de plateforme d'écoute de musique.
Et là, c'est effectivement un son que vous m'avez envoyé depuis YouTube. Alors, je vous file une oreillette.
Et donc là, je dois parler sur la musique pour vous expliquer ce que c'est ça?
Oui.
Eh bien, alors, c'est un projet qui s'appelle Scorpion Violente, que j'ai découvert il y a très longtemps. C'est un des premiers concerts que je suis allé voir avec la mère de mon premier fils et qui m'a emmené vraiment dans ce genre de musique-là et qui s'y connaît beaucoup mieux que moi dans des styles dits un peu brut, garage ou underground et tout ça, qui m'a beaucoup éduqué là-dessus, Albatéron. Ils sont deux là, sur scène, c'est que de la. Ce son, c'est que de la musique, il n'y a pas de parole. Et je m'apprête à travailler avec Nafi, son surnom, sur la musique de mon prochain film. Voilà.
Quel souvenir vous gardez de ce concert?
Oh là là! Le souvenir que je garde est très... Je me rappelle que j'étais assez déchaîné.
Qu'est-ce qui vous séduit dans cette musique? S'il y a une séduction, d'ailleurs.
Ben, c'est une sorte, en fait, de totale liberté, de non-drague à celui qui écoute. Ils sont chacun dans leur partie, de manière assez... à la fois très connectés et à la fois chacun très aussi centré sur son ressenti, la manière d'entrer dans les on n'appelle pas ça des couplets, mais d'entrer dans le rythme, dans la musique. Alors je ne sais pas, parce que je
dans
ne suis
transe.
Pas... Oui, transe, je ne sais pas.
Vous avez dit qu'il n'y a pas de drague dans cette musique.
Oui.
Ça, c'est un truc qui vous parle?
Ben, en fait, mais c'est comme les films. Il y a certains films qui sont, et ça ne veut pas dire que c'est des mauvais films, mais qui sont des produits qui sont marketés pour attirer ou pour... Il y a des films qui essayent de surfer sur la vague, alors d'un fait social actuel, mais un Don Juan, c'est un chef-d'œuvre. Ça parle de la séduction. Pour autant, je n'ai pas l'impression que l'œuvre elle-même ait été créée pour séduire le lecteur, le spectateur.
Qu'est-ce qui raconte votre long métrage?
On va dire que c'est le dérèglement d'un couple qui a été jusque-là vraiment dans la vérité de leur union, de leur amour, que ce soit mental, psychique, amour physique également. Et puis tout d'un coup... Chacun se rapproche de sa vérité à lui et leur vérité commune n'existe plus. Voilà.
La dernière séquence de l'émission, c'est une photo.
Oui.
On reste là?
Ouais.
Allez. Je peux vous montrer?
Oui, montrez-moi. Vous savez, je suis comédien, donc je vais forcément me détester, mais allez-y. Bon, écoutez, c'est très bien. Je viens de récupérer mes lunettes.
Dans votre cuisine?
Dans ma cuisine, ouais.
Et vous ne souriez pas?
Ah bon? Faites voir. Oh, plutôt si.
Vous rigolez?
Oh.
Là, vous souriez?
Je ne rigole pas.
Ah bah si c'est ça, sourire.
C'est quasiment un sourire, hein.
Ah d'accord, ok.
Mais oui.
Bon, eh bah d'accord alors. Merci beaucoup, Bastien Bouillon.
Avec plaisir, avec grand plaisir.
Bastien Bouillon est à l'affiche de À pied d'œuvre, un film de Valérie Donzelli en salle depuis mercredi. Stéphane Le Guenec réalise Totémique et c'était avec Guillaume Roux ce matin. Perrine Malinge programme nos invités. Ilinka Negulesco trouve la documentation et les sons. Et JB Audibert prend soin de nos disques. La semaine prochaine, rendez-vous dans une loge de théâtre avec Clémentine Sélarié.